Si Jésus est descendu de son ciel, l'Église n'est pas encore au ciel. Il nous faut vivre dans un monde réel, un monde encore dans lequel on peut être tué, même pour son téléphone, un monde où on peut s'affronter assez facilement pour un regard mal placé. Et l'Église, dans tout ça, qu'a-t-elle à dire, qu'a-t-elle à faire? C'est cette question que nous méditons depuis la rentrée, avec cette thématique d'une Église en marche, les défis du chrétien ou des chrétiens, pourrait-on dire, dans un monde réel. Et avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu et à suivre avec moi la lecture. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1, Paul écrit donc depuis sa prison à ses amis de Philippe. Il dit ceci, à partir du verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de la bonne nouvelle, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. Pour eux, c'est un indice de perdition. Mais pour vous, c'est un indice de salut de la part de Dieu. En effet, pour ce qui est du Christ, la grâce vous a été accordée, non seulement de mettre votre foi en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant ce même combat que vous avez vu chez moi et dont maintenant vous entendez encore parler en ce qui me concerne. S'il y a donc quelque encouragement dans le Christ, s'il y a quelque réconfort de l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque magnanimité, comblez ma joie, en étant bien d'accord, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par ambition personnelle, ni par vanité. Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Ayez, chers amis, entre vous, les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Reconnu, certes, à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu, de Dieu le Père. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu et Père, nous voulons, alors que nous ouvrons ta parole, faire silence en nos cœurs pour te laisser, à toi et ton esprit en nous, toute la place, pour que ta parole qui est vérité nous instruise, nous édifie, nous console, nous corrige et qu'elle nous aide, Seigneur, à être ensemble en marche dans ce monde. Amen. Je ne sais pas si vous le savez, mais en ce moment a lieu, bientôt c'est bientôt de la fin, les Jeux paralympiques à Rio en 2016. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne-là. Est-ce que quelqu'un la connaît? Il s'agit de Marcia Malsar, triple médaillée en 1984 aux Jeux paralympiques. Et elle a été un des relais de la flamme lors de la cérémonie d'ouverture. Pendant le stade, pendant cette ouverture, il pleuvait énormément. Et vous remarquez qu'elle marche avec une béquille. Alors avec la lumière, on ne voit pas très très bien. Il pleuvait à torrents. Et voilà qu'elle s'est mise à glisser. Elle est tombée. Alors un certain nombre d'agents techniques s'est approché pour l'aider, pour la relever. Mais elle s'est relevée souriante, toute seule. Et portée par les applaudissements du public, elle a été jusqu'au bout. Portée par les applaudissements du public, elle a été jusqu'au bout. son courage, sa persévérance, le soutien des autres. Voilà donc une belle illustration de ce que nous voulons lire. L'unité. Celui qui chute, celui qui tombe est porté par les autres. Voilà donc une belle illustration de ce que Paul nous invite à vivre, de porter un témoignage par la vue, pas seulement par la parole, par la voix. Vous connaissez bien le dicton « Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Mais Paul dit le contraire. « Faites ce que je dis, regardez-moi, regardez-vous, vivez non pas seulement en parole, mais aussi en action. » Alors c'est vrai, il est bon ton d'affirmer que la vie est un combat, n'est pas un long fleuve tranquille. C'est vrai, c'est une réalité. Il y a bien des épreuves, bien des difficultés, des injustices, des crimes, des choses abominables. La violence et la haine sont parfois même des tentations, même pour chacune et chacun d'entre nous, comme réponse à cette adversité. Oh, elle ne prendra pas forcément corps, mais elle peut germer ici dans notre cœur. Et alors que Paul est en prison, il dit à ses Philippiens, ses amis, « Menez une vie digne de l'Évangile. Vivez la bonne nouvelle. » Et il en a été un exemple pour les Philippiens. En acte 16, on nous raconte comment il a édifié cette église. Et alors qu'il est en train d'édifier cette église, il a été emprisonné. Et que faisait-il avec son ami Silas? Est-ce qu'il se morfondait? Est-ce qu'il criait sa colère à Dieu? « Mais qu'est-ce que tu fais de nous emprisonner ici ?» Il chantait et louait Dieu. C'est quand même un comportement étrange. Une drôle de façon de vivre l'adversité. Alors Paul et Silas ont été délivrés. Mais Étienne, lui, a été lapidé. L'évangile que nous prêchons, que nous méditons, prend vie dans ce monde qui est le nôtre, dans notre réalité. L'évangile est bonne nouvelle que nous lisons, que nous méditons peut-être depuis des années, mais il vient nous visiter aussi au plus profond de notre être, ici, au tréfonds de ce que nous pensons, méditons, aimons. L'évangile de la bonne nouvelle est espérance et pardon. Mais c'est un message aussi qui a coûté cher à celui qui a tout payé. L'évangile fait bouger les lignes dans notre vie. Nous ne devrions pas vivre comme des chrétiens du dimanche. C'est ce que Paul dit finalement. Ce que vous croyez, ce que vous proclamez, doit vous bouleverser là, à l'intérieur. Ça doit vous impacter, forcément. Imaginez qu'un jour, votre conjoint, que vous aimez, vient nous faire une déclaration après avoir parcouru des kilomètres, gravi des montagnes, couru, pédalé sur un vélo, fait le tour du monde. Il a perdu des kilos. Et il arrive face à vous et il a dit, « Chérie, j'ai tout fait. J'ai fait tout ça juste pour te dire combien je t'aime. » Et vous de lui répondre, « Ok, merci. » Ça semble assez étonnant comme réaction. Je ne sais pas si le couple perdurera ce genre de communication. Mais c'est ce que Paul nous dit lorsqu'il nous décrit l'amour trinitaire, chapitre 2, verset 1. Quand il nous parle d'un Dieu qui encourage, qui console, qui réconforte, qui nous aime, qui nous a permis de vivre de l'amour aussi, de la communion ensemble. Lui qui exprime de la tendresse, de la compassion pour chacune et chacun d'entre nous. Et il ne s'agit pas d'un amour théorique, platonique. Il l'a montré en venant sur cette terre. Versets 6 à 11. Il décrit cet homme, ce Dieu fait homme, qui gravit bien, bien, bien plus des montagnes et de chemins que notre histoire pour venir à notre rencontre. Est-ce que nous croyons que celui qui, de dignité royale, en a laissé la condition par amour pour chacune et chacun d'entre nous. Est-ce que vous le croyez, chers amis? Est-ce que ça bouge là dans votre cœur? Est-ce que vous le croyez réellement? Parce que si c'est le cas, alors ça doit changer votre vie, dit Paul. Votre vie doit avoir une saveur particulière. Elle doit être radicalement changée. Alors il ne dit pas ça comme d'un haut de son autorité, d'apôtre, pas par autorité, pas par esprit moralisateur, mais il dit par amour, pour combler sa joie, dit-il. Combler ma joie en vivant de façon digne de l'Évangile. Il trouve sa joie dans les autres, notre cher Paul. Non pas de façon générale, mais dans le progrès, en sachant que les uns et les autres, ceux qui l'aiment, sont sur la bonne voie. Ça, ça le rend heureux. Le bonheur des autres fait le sien. Quelle vie extraordinaire. Trouver sa joie dans les autres. Mais Paul ne cache pas la réalité. Il le sait que vivre cette vie digne de l'Évangile, ça ne se passe pas en eau paisible, mais en eau trouble. Il rappelle bien évidemment cette réalité de la souffrance, cette épreuve, une épreuve qui n'est pas forcément à chercher, une souffrance qui n'est pas à chercher forcément, mais pas non plus à éviter. Elle fait partie du lot commun et elle peut même parfois être plus intense parce que nous sommes chrétiens. Alors des questions jaillissent. Paul, qu'est-ce que ça veut dire que vivre d'une manière digne de l'Évangile? Donne-nous des exemples, Paul. Je répondrai, je ne suis pas Paul, mais il me semble qu'une façon, une manière de vivre l'Évangile, c'est ce mot qui peut être galvaudé parce qu'on l'entend à tire-larigot dans nos églises depuis des années, qu'est l'unité. L'unité. Exemple flagrant, une façon de vivre l'Évangile. Vous le savez sûrement, durant la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler avait demandé à tous les groupes religieux de s'unir autour de lui pour qu'il puisse contrôler un petit peu les choses, contrôler les enseignements, la spiritualité des uns et des autres. Et dans la communauté des frères, cette union d'église, il y a eu une séparation. Certains ont accepté et d'autres pas. Ceux qui ont accepté ont vécu une vie plus ou moins paisible, comme on peut la vivre pendant une guerre. Mais ceux qui ont refusé, eux ont été persécutés. Et il n'est pas une famille qui n'avait pas un membre qui a subi la camp de concentration et qui est décédé. Alors vous pouvez imaginer qu'à la fin de la guerre, quand ces gens se sont retrouvés, quelle amertume, quel mépris peut-être de part et d'autre. Quelle amertume. Et il y a eu un temps d'amertume, de colère, de séparation. Et puis, un jour, ils ont décidé que c'était trop. Il fallait régler la situation, guérir les blessures. Et ils l'ont fait, une retraite, chacun de son côté, chaque personne face à Dieu. Chaque personne a passé du temps à s'examiner. Et puis ils sont revenus. Et puis quelqu'un a demandé un peu plus tard à un ami, « Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après que vous soyez retrouvés ?» Et la personne a répondu, « Nous étions un, unis. » Parce que se mettre face à Dieu, sincèrement, mettre en avant nos fautes, nos culpabilités, nos amertumes, a permis au Saint-Esprit de guérir ce lien de fraternité qui existait déjà. Mais il fallait restaurer, il fallait ressouder ces liens. Parce qu'il est vrai que lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, nous sommes unis. Il y a un lien spirituel qui est créé. Comme lorsqu'un enfant naît, il naît dans une famille et le lien familial est là, déjà, existant. Il va se développer. Et nous avons, dit Paul, à cultiver ce lien, aller dans la même direction, avoir la même pensée. Ce n'est pas une pensée unique, mais c'est que notre pensée soit commune, dirigée dans la même direction. Et il ne s'agit pas d'un formatage, mais d'une prise de conscience que Dieu nous aime et nous invite à aller sur ce chemin, le chemin de la bienveillance, de la compassion, de la miséricorde. Et cela, même au milieu de l'adversité. L'Église est finalement comme un laboratoire, où il y aurait plein de micro-organismes qui vivent, qui évoluent, qui grouillent avec un ADN commun, le Saint-Esprit, qui vit en chacun. Mais ce n'est pas un laboratoire expérimental, vous savez, où on essaie des choses, parce que Dieu sait ce qu'il fait dans ce laboratoire. Et il veut révéler dans ce laboratoire qu'est l'Église combien l'Évangile bouleverse le monde. Combien en rassemblant des gens plus ou moins aimables de tout horizon, il a un message à porter, à donner. L'Église devrait être un, au vu du monde. Elle l'est spirituellement, mais elle devrait être un. Et c'est une réalité, finalement, une réalité à cultiver. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du miracle qu'est l'Église encore ce matin, lorsque vous regardez à votre droite et à votre gauche. Nous rassemblons des personnes de tous horizons, des Algériens, des Tchadiens, des Haïtiens, des Antillais, il y a même des Alsaciens, des Beaucerons. Mais vous imaginez ce qu'est ce miracle, que ce rassemblement de personnes qui, a priori, n'ont pas grand-chose en commun. Mais le Saint-Esprit, petit à petit, a conduit ces personnes à se réunir ce matin, et cela depuis des siècles et des siècles. Est-ce que vous imaginez ce qu'est l'Église ? C'est un véritable miracle, un miracle visible, et qui devrait être visible. L'Église unie, voilà la manière de vivre l'Évangile de façon digne. Et c'est vrai, ce lien est fragile. Ce lien est à préserver, protéger, nous dit Paul. Dimanche après dimanche, avec des temps passés ensemble, des repas partagés, des invitations, des temps de prière, du sport peut-être. Bref, prendre le temps de construire ce lien spirituel. Oui, mais comment, Paul ? J'ai compris, vivre de façon digne de l'Évangile, ce serait vivre de façon unie dans l'Église. Mais comment vivre cette unité dans l'Église ? Pas toujours facile. Est-ce que, Paul, tu aurais un indice à nous donner ? Je crois que oui. Il y a deux siècles, donc au XIXe siècle, il y avait un professeur qui s'appelait Christian Stuart Blackie. Je ne sais pas si vous avez rencontré déjà cette histoire. Il était professeur à Édimbourg, en Écosse. Bon, c'est au XIXe siècle. Et il est en train d'interroger ses étudiants. Chaque étudiant devait passer les uns après les autres pour exposer les résultats de leur recherche. Alors, il y a des enseignants dans la salle. C'était une autre réalité, un autre monde. Et donc, un élève se porte candidat. Le jeune homme se lève et commence sa prestation. Et il a posé le livre dans la mauvaise main, parce que c'était protocolaire, dans la main gauche. Alors le professeur commence à rougir. L'élève continue. Il rougit de plus en plus et se met à gronder ce jeune étudiant. « Mais qu'est-ce que vous faites là ? Il faut porter le livre dans la main droite. » Dans la main droite. Et le jeune étudiant lève simplement son bras droit. Et son bras droit n'avait pas de main. Alors tous les étudiants sont un peu gênés. Mais qu'est-ce que va faire ce professeur ? Et le professeur hésite un petit peu aussi. Il a quand même sa dignité de professeur d'université, n'est-ce pas ? Il faut qu'il reste cohérent. Alors il hésite. Et puis soudain, il descend du haut de sa chaire, va derrière l'étudiant, l'entoure de ses bras et prend le livre sur sa main droite pour que l'étudiant puisse faire son exposé. Le professeur avait les larmes qui coulaient de ses yeux et il dit à l'étudiant, « Je ne le savais pas. Veuille me pardonner. » Alors, cette histoire est déjà belle. Mais elle s'est un peu prolongée. Car quelques années plus tard, on a raconté cette histoire, un peu comme aujourd'hui, à un rassemblement de chrétiens. Un peu plus tard, donc, on raconte cette histoire, et puis tout d'un coup, un jeune homme se lève de la salle, s'avance devant et montre son bras sans main. Et il dit, cet étudiant, c'était moi. Cet étudiant, c'était moi. Et il poursuit, le professeur Blackie m'a permis de rencontrer le Christ ensuite. Mais il n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas fait cette maladresse. Il n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas fait cette maladresse. Et surtout s'il n'avait pas continué dans cet acte d'humilité. L'humilité, voilà, me semble-t-il, une des recettes de l'unité. Paul nous dit ceci, ne faites rien par ambition personnelle, ni par vanité, mais avec humilité au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun ne regarde pas à ce qui lui est propre, à ses intérêts, mais qu'il s'intéresse plutôt aux autres. Nous avons là une belle mise en pratique dans cette histoire du professeur Blackie, d'une humilité qui suit simplement celle qu'a enseigné Jésus, celui qui nous enseignait à être serviteurs des autres, celui qui nous invitait à être les derniers plutôt que les premiers, et celui qui nous a montré aussi le chemin. L'humilité, c'est considérer que l'autre a autant d'importance que moi, voire plus peut-être. Et ça, c'est bien contraire à la nature humaine, me semble-t-il. C'est choisir de lui laisser une place, de le servir, de l'écouter même avant de dire mon opinion. Accepter aussi que, bien sûr, je pourrais faire les choses bien mieux que lui, mais je vais lui laisser faire. Accepter aussi que notre idée ne soit pas retenue. Accepter que l'autre fasse des choses que moi aussi je pourrais faire. L'humilité, ce n'est pas agir avec un esprit de rivalité, ni à chercher la vaine gloire, dit Paul, qui aboutissent finalement à penser, se penser supérieur aux autres. L'humilité, c'est refuser de se mettre en avant, de faire prévaloir ses intérêts, ses idées. Et si on arrive à faire ça, il y a de fortes chances que l'unité en découle. Mais l'humilité est une plante fragile. Vous savez, l'orgueil n'est pas loin. L'orgueil n'est pas loin. Et il faut que le Saint-Esprit fasse un véritable travail à l'intérieur, qu'il nous aide à cultiver cet esprit d'humilité, pour que nous puissions d'abord reconnaître une chose, c'est que face à cette croix, nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes. Nous sommes misérables. Face à cette croix, il est difficile d'avoir une haute opinion de nous-mêmes, me semble-t-il. Notre orgueil sera alors brisé face à la croix, face à ce Christ qui a cheminé pour nous sauver. Le Seigneur nous invite à nous placer devant lui, à considérer son œuvre, non pas comme une œuvre qui s'est passée il y a tant d'années, mais qu'elle soit miroir pour nous-mêmes, pour nos vies, et que nous puissions nous situer face à lui, simplement, comme des enfants de Dieu, aimés par lui et par grâce simplement. Nous l'avons chanté tout à l'heure, et nous le crions parfois. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ça peut être des termes, des expressions que nous avons l'habitude d'entendre, de chanter, de prier. Oui, Seigneur, tu es le Seigneur de ma vie. Mais est-ce que nous nous rendons compte que lorsque nous faisons cela, lorsque nous disons cela, lorsque nous chantons cela, nous sommes en train de faire un acte d'allégeance. Nous nous soumettons à Dieu. Et c'est ensemble que nous nous soumettons devant Dieu. Et alors, nous n'avons pas à nous considérer supérieurs les uns aux autres, parce que face à Dieu, nous sommes tous pareils, des êtres soumis. Mais nous sommes invités maintenant, par l'apôtre Paul, à vivre cette humilité, à se soumettre les uns aux autres. Non par devoir, non par obligation, non par moralisme, mais simplement en prenant conscience que nous sommes aimés par Dieu et qu'il a tout fait pour nous. Et que celui qui est à ma droite, celui à ma gauche, n'est pas plus, n'est pas moins aimé par Dieu. l'est tout autant. Alors le regard que je vais porter sur lui va changer. Il est tout autant, voire peut-être plus, aimé par Dieu. Non, nous sommes aimés de façon égale par Dieu. Il n'y a pas de misérabilisme ici, mais l'humilité. L'humilité. Prendre soin les uns des autres en écoutant l'autre, en l'estimant, en le respectant. C'est tout un programme. Tout un programme à vivre. Tout un programme, chers amis, que nous avons à vivre les uns avec les autres. Alors, juste pour conclure, assez rapidement, il y a deux questions qui s'offrent à nous. Deux questions. En tant que chrétien, quels sont les défis qui se placent devant moi? Quels sont les défis? Je pense que le premier défi, c'est l'unité. L'unité à préserver et nos relations à approfondir. Alors la question se pose, qu'est-ce que je vais faire cette année, aujourd'hui, après le culte, pour entretenir ces relations, pour les faire bouillonner, pour que ces micro-organismes bouillonnent ensemble? Deuxième défi, c'est l'humilité. Et peut-être que ce matin, face à la croix, nous pouvons nous demander, mais Seigneur, j'ai besoin que tu me visites dans tel ou tel domaine de ma vie. Et apprends-moi l'humilité. Comme toi, tu me l'as enseigné. Comme toi, tu me l'as montré. Deux défis en tant que chrétien, unité et humilité. Et en tant qu'Église, quels sont les défis? Quels sont les besoins de ce monde réel? Il me semble qu'il y en a deux, voire plus, pourrait-on dire. Le premier, c'est que le monde a besoin de voir des personnes unies, malgré la diversité de leurs origines, de leurs opinions, même politiques, des personnes fidèles et qui se réunissent, qui s'aiment, qui se sourient les uns les autres de façon naturelle, spontanée, sans qu'ils y soient obligés. Le monde aussi a besoin de personnes humbles, de personnes qui soient capables de se soucier de l'autre, de laisser une seconde chance à l'autre. Le monde a besoin de personnes capables de reconnaître aussi que son bonheur peut passer aussi par celui des autres, y compris lorsque je ne comprends pas cette personne. Mais tout ceci, chers amis, ne peut être que le fruit de l'œuvre de l'Esprit Saint en chacune et en chacun d'entre nous. Nous avons certes des efforts à faire, mais le travail de fond est accompli par le Saint-Esprit en chacun d'entre nous. Alors il faut le laisser vivre et se développer en nous. Car l'enjeu est quand même de taille. L'enjeu est de taille. Vous connaissez cette parole du Christ, cette prière même. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui croiront par ces apôtres, par mes amis, afin que ceux qui vont croire, les églises, l'Église qui va se succéder dans le temps, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'enjeu, chers amis, est de taille. L'unité, l'humilité que nous avons à cultiver ensemble, nous ne sommes pas appelés à le garder, à être en petit cocon, mais l'enjeu, c'est le salut des âmes, des personnes qui nous entourent. L'enjeu est donc de taille, l'appel immense, mais nous sommes en marche, ensemble, nous sommes en marche sur le sentier de cette vie. Que Dieu donc nous remplisse donc toujours de plus en plus de son esprit, de son amour, afin que nous soyons comme lui, que nous adoptions son regard sur les autres et que nous vivions selon ses priorités et non les nôtres. Amen.